Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du magnétisme. On va essayer de décortiquer les idées clés, en partant des bases jusqu'au lien avec l'électricité.
Bonjour. Oui, c'est un sujet dense. On va s'appuyer sur quelques concepts fondamentaux, depuis les aimants, les pôles nord et sud, jusqu'aux découvertes d'Oersted et Ampère.
Exactement. Alors, commençons simple. Les aimants, naturels ou artificiels, ils ont toujours ces fameux pôles nord et sud. Et on ne peut pas les séparer, c'est ça?
C'est ça, un dipôle magnétique. Si on coupe un aimant en deux, on obtient deux nouveaux aimants, chacun avec son nord et son sud.
Ah, d'accord. Et la boussole, elle s'aligne sur quoi exactement?
Elle s'aligne sur le champ magnétique terrestre. La Terre elle-même agit comme un immense aimant avec ses propres pôles magnétiques.
Qui ne sont même pas au même endroit que les pôles géographiques, d'ailleurs.
Non, effectivement, il y a un décalage. Et pour visualiser ce champ invisible, on imagine des lignes de champ qui sortent du pôle nord et rentrent au pôle sud.
Bon, ça, c'est pour les aimants classiques. Mais le lien avec l'électricité, c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif au départ, non?
Oui, la découverte d'Oersted a été une petite révolution, le fait qu'un simple courant électrique dans un fil puisse faire bouger l'aiguille d'une boussole.
Ça a montré qu'un courant crée un champ magnétique autour de lui, hein.
Précisément. Et Ampère, lui, il est allé plus loin. Il a mesuré la force entre deux courants parallèles.
C'est de là que vient la définition de l'ampère, l'unité de courant.
Tout à fait. Et aussi la loi d'Ampère, une formule mathématique qui relie le champ magnétique à la source de courant qui le crée. C'était une étape majeure.
Né.
Alors pour ça, on a des outils mathématiques. La loi de Biot-Savart, par exemple, permet de calculer le champ créé par un fil conducteur rectiligne ou une boucle de courant.
Une boucle, comme dans une bobine.
Oui, ou un solénoïde, qui est en gros une longue bobine. À l'intérieur d'un solénoïde, le champ est d'ailleurs très uniforme. Et on mesure tout ça en Tesla. C'est l'unité du champ magnétique.
Tesla, d'accord. Bon, on a vu comment les courants créaient des champs. Mais l'inverse, est-ce que les champs magnétiques ont un effet sur les courants ou les charges électriques?
Ah oui, absolument. C'est la force de Lorentz. Un champ magnétique exerce une force sur une charge électrique, mais seulement si cette charge est en mouvement.
Ah, seulement si elle bouge. Et sur un fil avec un courant aussi, j'imagine.
Oui, car un courant, c'est un déplacement de charge. Et cette force de Lorentz, elle a une particularité un peu étrange.
Laquelle?
Elle est toujours perpendiculaire à la fois à la vitesse de la charge et à la direction du champ magnétique.
Perpendiculaire, donc elle ne pousse pas la charge dans la direction où elle va, ni dans celle du champ.
Non, elle la fait dévier sur le côté. C'est une force qui courbe la trajectoire, mais elle ne change pas la vitesse de la particule, son énergie cinétique.
D'accord, je vois. C'est pour ça qu'une particule chargée qui entre dans un champ magnétique uniforme peut se mettre à tourner en rond.
Exactement. Si elle entre perpendiculairement au champ, elle décrit un cercle. Si elle a aussi une vitesse parallèle au champ, ça donne une trajectoire en hélice.
Un peu comme un tire-bouchon qui suit les lignes de champ.
C'est une bonne image, oui. Et on voit ça à grande échelle dans l'espace.
Les ceintures de Van Allen, c'est ça?
Ces particules piégées par le champ terrestre.
Tout à fait. Elles spiralent autour des lignes de champ magnétique de la Terre. C'est une illustration parfaite de la force de Lorentz à l'échelle cosmique.
Fascinant. Et est-ce qu'on utilise cette force de Lorentz dans des applications technologique?
Ah oui, énormément. Par exemple, en combinant un champ électrique et un champ magnétique croisé, on peut créer ce qu'on appelle un sélecteur de
Un
vitesse.
sélecteur de vitesse. Pour trier les particules?
Oui, seules les particules ayant une vitesse bien précise, où la force électrique et la force magnétique se compensent exactement, passent tout droit. Les autres sont déviées. C'est très utilisé dans les spectromètres de masse, pour séparer les ions selon leur masse et leur charge. D'accord?
Et il y a aussi l'effet Hall. Quand on fait passer un courant dans une plaque conductrice placée dans un champ magnétique perpendiculaire, une tension apparaît sur les côtés de la plaque.
La tension de Hall. Et ça sert à quoi finalement?
C'est la base de beaucoup de capteurs magnétiques pour mesurer l'intensité d'un champ, par exemple. Très pratique.
C'est fou de voir comment tous ces concepts s'imbriquent et mènent à des applications concrètes. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça.
On a vu que le magnétisme, c'est d'abord ses pôles inséparables, nord et sud, et ces champs invisibles qu'on représente par des lignes.
Oui, et puis surtout ce lien fondamental avec l'électricité. Les courants génèrent des champs.
Et les champs magnétiques exercent une force sur les charges en mouvement, modifiant leur trajectoire.
Une sorte de dialogue constant entre électricité et magnétisme qui régit plein de phénomènes, du microscopique au cosmique.
C'est une bonne façon de le voir, et pour laisser une petite chose à méditer, on a insisté sur le fait que les pôles magnétiques vont toujours par deux, en dipôle.
Oui, impossible d'isoler un pôle nord tout seul.
Exactement. Contrairement aux charges électriques, on a des charges positives isolées et des charges négatives isolées. Alors, vu la symétrie et le lien profond entre électricité et magnétisme, qu'est-ce que ça impliquerait physiquement ou même technologiquement, si on trouvait ou si on arrivait à créer un monopôle magnétique, un pôle nord-sol ou un pôle sud-sol?
Ah, c'est une question vertigineuse. Ça remettrait en cause pas mal de choses, imagine.
Très probablement. Ça ouvrirait sans doute de nouvelles perspectives théoriques et peut-être des applications insoupçonnées. C'est une des grandes questions ouvertes de la physique.